Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion sur le silence condition ou corruption de la parole publique, en compagnie ce soir de François Rastier, qui vient de publier aux éditions des PUF un livre intitulé « Extermination et littérature, les témoignages inconcevables ». Nous avons pu mesurer la difficulté de prendre la parole dans l'espace public. Mais il ne suffit pas de parler ou de témoigner pour être entendu. Les rescapés de la Shoah en ont fait la mère expérience. La parole publique s'analyse comme une rencontre entre des locuteurs et des auditeurs, entre des témoins, et non pas des oreilles compatissantes, mais des juges, des personnes qui exercent une discrimination éthique. Les juges, c'est vous, rappelez Primo Levi à ses lecteurs dans la postface tardive de « Si c'est un homme ». Et c'est donc cette question du témoignage que je vous propose d'approfondir ce soir en compagnie de François Rastier. François Rastier, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a écrit plusieurs ouvrages, et notamment « Ulysse à Auschwitz » ou « Apprendre pour transmettre » et « Le naufrage d'un prophète » Heidegger. Aujourd'hui, c'était en 2015. Bonsoir François Rastier.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il est si difficile de témoigner lorsque Primo Levi rentre, mais c'était le cas de beaucoup de rescapés, non seulement ils ne sont pas entendus, mais on sent que pour eux, ils ont envie de tourner la page pour beaucoup d'entre eux et parler, prendre la parole dans l'espace public est déjà une difficulté quasi insurmontable.
Oui, alors, il y a eu une réserve, et voire une impossibilité à parler, c'est fréquent chez les victimes, et une culpabilité malgré tout des survivants, et bon, certains...
Culpabilité d'avoir survécu.
Certains ont préféré se taire pendant longtemps, soit qu'ils estimaient que ce n'était pas à eux de témoigner, qu'ils n'étaient pas habilités, voire que d'autres l'avaient fait à leur place. À certains, on a demandé « Mais pourquoi vous n'avez pas témoigné ?» Ben, Lévy l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'il y avait une exemplarité de certains témoignages qui ne rendait pas nécessaire.
Et il ne voulait pas se complaire dans quelque chose qui va devenir, on y reviendra tout à l'heure, sur une sorte de pathos, de pathologie du témoignage ou du faux témoignage, plus précisément.
Alors, avant cela, il y a la question aussi de l'habilitation. En quoi ai-je le droit de parler? Est-ce que ma parole sera suffisamment élaborée pour venir dans l'espace public? Beaucoup se sont tus. Par exemple, ils ont dit aux petits-enfants « Ah oui, ce numéro sur mon bras, c'est mon numéro de téléphone, etc.
Enfin, » Ils ne voulaient pas, ils voilà, voulaient même
en famille, ils ne voulaient pas en parler. Pourquoi est-ce que certains ont rompu le silence? D'une part, aussi pour des raisons... on peut dire politique. Beaucoup étaient résistants, Primo Levi, Robert Antelme, Jean Améry, par exemple, Varlam Chalamov, lui aussi a été arrêté.
Vous rappelez pour nos auditeurs Varlam Chalamov, ce qui est très important.
Alors Varlam Chalamov, lui, a été arrêté pour avoir distribué le testament de Lénine à une époque où ce document était interdit. Alors, il appelle les camps de la Colima l'Auschwitz du froid. C'est-à-dire que pour ces politiques, la durée de vie était estimée à 3 mois tout au plus. Mais il sait bien, lui, que justice ne sera pas rendue. Et donc, il emploie d'autres forme littéraire que les témoins, disons, comme Lévy, qui, eux, s'adressent à une justice dont ils savent qu'elle sera rendue ou pourra l'être, puisque, quand même, la justice internationale a été bouleversée par Nuremberg, qui a ouvert un autre espace.
Mais c'est très important ce que vous dites, François Astier, parce que ça veut dire que les témoignages de gens qui ont vécu des choses horribles, j'allais dire des choses également horribles par les totalitarismes du XXe siècle, n'ont pas le même témoignage, parce qu'ils n'ont pas la même espérance dans la justice, ils n'ont pas cette même confiance dans le monde qu'un jugement interviendra. C'est vrai, c'est vrai d'un Primo Levi, alors qu'il y a un désespoir supplémentaire chez Barlam Chalamov, qui va se contenter de choses vues, de ça se voit dans son style, c'est des petits chapitres qui à chaque fois racontent font parler, on pourrait dire, une anecdote, un petit détail.
Oui, et puis Lévy sait par exemple que les camps sont fermés, tandis que Chalamov sait très bien que le goulag dure encore. Et il ne peut pas... D'abord, il n'a pas de possibilité d'édition, et ensuite, il ne sait pas... il ne peut pas mettre en danger des camarades qui seraient restés là-bas.
Et d'ailleurs, quand il rentre chez lui, sauf erreur, il est rejeté par les siens, et notamment par sa fille.
Oui.
Et il termine sa vie misérablement dans un hôpital psychiatrique. Il ne s'en sort pas.
Oui, y compris que là, il y a aussi le fait que la hantise demeure. C'est-à-dire, il cache son pain sous son oreiller, etc. Enfin, il reste... Il reste hanté, comme Lévy l'a été d'ailleurs. C'est les images de sa mère mourante qui l'ont amené à téléphoner, on a su ça 10 ans après sa mort, au grand rabbin de Rome, une demi-heure avant son propre suicide. Donc cette question de la hantise, qui apparaît non pas dans sa prose mais dans ses poèmes, et souvent, le témoignage proprement dit est un genre qui s'est élaboré à ce moment, qui a trouvé du moins sa forme moderne à ce moment, mais il y a d'autres genres qui participent de la mission testimoniale du survivant, que ce soit en poésie ou dans d'autres formes. Il y a eu toute une élaboration chez des auteurs comme Delbo, par exemple.
Oui, puis il y a aussi le film plus récemment, mais on pense bien sûr à S21 de Ritipan, sur lequel vous revenez dans votre livre, François Rastier. C'est aussi une autre manière de transmettre.
Ah oui, il y a tout un art. D'ailleurs, le livre dont vous parlez... je l'ai dédié à Van Natte, qui est le peintre survivant de S27.
Et alors, ce qui est intéressant pour ce peintre de S21, ce qui est intéressant pour ce peintre, mais comme pour Ritipan, et peut-être d'ailleurs même comme un film qui est sorti il y a peu de temps sur les Rohingyas, c'est-à-dire que il y a un rapport à l'esthétique, mais qui est différent de celle du style, bien sûr. C'est-à-dire que l'esthétique, on y reviendra, est présente, mais en même temps, ce qui est important, c'est de rappeler, de montrer les lieux, de montrer les corps. Et ce peintre va être en quelque sorte, on pourrait dire, une sorte de mise en abîme de la représentation dans la représentation. Van Natte, c'est celui qui peignait, et c'est pour ça qu'il a survécu, et il peint. Voilà.
Oui, et sobriété dans les genres testimoniaux, et notamment le témoignage littéraire proprement dit, est lié à une volonté particulière. Lévy dit par exemple « Lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai délibérément eu recours au langage sobre et posé du témoin plutôt qu'au pathétique de la victime. » Et pourtant, il est lui-même victime. Ou à la véhémence du vengeur. Je pensais que mes paroles seraient d'autant plus crédibles et utiles qu'elles apparaîtraient objectives et dépassionnées. C'est dans ces conditions seulement qu'un témoin appelé en justice remplit sa mission, qui est de préparer le terrain aux juges, et les juges, c'est vous. Et il s'adresse là à des jeunes collégiens. Dans ce texte que vous avez mentionné.
Alors François Rastier, l'intérêt de cette citation, c'est de voir que dans l'espace public, c'est le témoignage qui dresse en quelque sorte une scène judiciaire, qui n'est pas une scène judiciaire institutionnelle, qui pourrait l'être, qui l'est parfois dans certains procès. Mais en revanche, monter une scène pour permettre aux citoyens et aux jeunes citoyens de se mettre en position de juge, c'est-à-dire d'exercer leur jugement sur ce qui s'est passé. Et leur jugement et pas leur émotion et pas forcément leur compassion.
Voilà. Alors, le devoir de mémoire a un sens si c'est un devoir d'éducation. Et dans l'émission du témoignage, il y a évidemment la déposition, y compris la déposition en justice. Certains de ces écrivains ont déposé, par exemple, Abraham Souskever est à Nuremberg. Et il dit, moi, je vais parler au nom des disparus et donc, je vais témoigner en yiddish.
Oui.
Ça a été refusé.
Ça a été refusé.
Il a témoigné en russe. Mais la présence des artistes au tribunal, ça a été le cas de Ritipan lui-même, puisque son film a été projeté pendant le procès.
Et pourtant, cette qualité littéraire, vous faites allusion, François Rastier, au style du témoignage, au style de la prise de parole, qui est un style dépouillé, qui est un style sobre, un style maigre, dirait Erasme, c'est-à-dire qui se limite à l'essentiel, au fait, de façon à objectiver quelque chose, à objectiver d'ailleurs un crime qui était nié et qui l'est toujours malheureusement.
Alors c'est aussi un acte de résistance contre le pathos qui a présidé aux discours qui ont préparé eux-mêmes l'extermination. C'est l'inverse du style nazi, c'est l'inverse de la grandiloquence négationniste, si l'on peut dire. Et je trouve très intéressant qu'un auteur comme Borowicz, qui est lui-même un survivant, dise « Les poètes connus avant la guerre par leur langage surchargé, les auteurs difficiles à comprendre, simplifient spontanément leurs moyens d'expression. »
Oui, mais alors, on peut aller plus loin, François Rastier, ça veut dire que c'est même le théologico-politique qui est en cause, c'est-à-dire c'est l'opposition entre les faits, le style judiciaire, qui est un style assez sec et qui se veut d'ailleurs comme tel, pour ne pas le surcharger ni d'appréciation morale, ni d'envolée lyrique, face à un style de théologico-politique, et par exemple, dès qu'on veut trop surcharger ces témoignages des références au mal, par exemple, il y a souvent une réticence de la part des témoins à ce qu'on emploie ce registre de langage.
Tout à fait, Antoine Garapon, je suis d'accord avec vous et je crois que cela tient au danger qui est perçu quand il s'agit du grand style, ce que Nietzsche appelait le grand style. Borowicz dit « Les prisonniers furent souvent assaillis non par des idées, mais par des débris de pensée et un chaos de sentiments. Rendre directement ce charivari étrange ne serait que le prolonger et le propager. » Et donc, c'est une mission de résistance qui est attribuée au style sobre lui-même. Cela va tout à fait à l'inverse des valeurs littéraires les plus répandues, du moins dans notre pays. Je rappelle que le style Goncourt a été élaboré dans les milieux anti-Dreyfusard. Et donc, il a une valeur, une exaltation décorative, de gros adjectifs multicolores, comme on les voit, par exemple, chez Little, qui est le modèle même du... non pas du faux témoignage, mais du roman historique
et de l'embellissement, l'embellissement avec une aversion, on y reviendra. Mais le code El Picard, dont on sait qu'il n'était pas particulièrement philosémite, témoigne pour Dreyfus pour les faits, en raison des faits, pas du tout en raison de l'honneur de l'armée, de la grandeur de la France, etc. Voilà auquel il était probablement attaché. Mais ce qui motive son témoignage, c'est cet attachement au fait. Cet attachement au fait, c'est aussi une raison, dites-vous, François Rastier, de refuser à ces témoignages, à ces livres, le statut de véritable littérature.
Alors là, nous sommes devant une question embarrassante, parce que l'idée reçue dans le domaine des études littéraires et de la critique, de la poétique, c'est que la littérature se définit par la fiction. Et donc, ce genre d'ouvrage, de témoignage, est rejeté du côté de la non-fiction, qui est une catégorie bibliographique nord-américaine. Et si on définit la littérature par la fiction, évidemment, le témoignage ne peut être que marginal. Ça va être un document. Or, on néglige l'élaboration artistique propre de ces témoignages. Parce que les catégories littéraires usuelles ne conviennent pas, il n'y a pas le pathos qui est apprécié grandement par le public, et j'ai remarqué par exemple que Les Bienveillantes s'est vendu 3000 fois plus vite que le livre de Primo Levi.
Qui a eu du mal à faire éditer.
Voilà, ce qui en dit long sur les attentes du public, et on remarque aussi que les faux témoignages décelés comme tels, qui ont fait des succès de librairie, continuent à se vendre après avoir décelé, décelés. Il y en a un, par exemple, qui est toujours au catalogue de Mondadori.
Ah oui, c'est au nom de tous les miens, peut-être, non?
Non, c'est le livre de Benjamin Wilkomirski.
Ah oui, c'est ça, qui était un imposteur.
Oui, enfin, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, tout est inventé et correspond aux attentes. C'est-à-dire, il y a une sorte d'anamnèse extraordinaire d'un enfant. Enfin, disons, tout est là pour faire pleurer Margot, mettre aussi du sang et des détails horribles. Si on regarde, par exemple, la description des corps. Agamben parle de cadavres mouchetés de rose et de vert. Little parle d'un sein dénudé rongé par les chiens. Et là, on voit que c'est le cadavre et non pas la dépouille qui est décrite, la dépouille morte.
C'est déjà un refus de dignité.
Oui, Kurt Gerstein, qui est un SS dissident, si on peut dire, du moins, qui a non pas témoigné, mais dont les carnets disent les faits. Et il a été attaqué. Il a été attaqué par les négationnistes de ce point de vue-là, parce que voilà comment il décrit les corps. On jette les corps bleus, humides de sueur et d'urine, les jambes pleines de crottes et de sang périodique. À cela, on pourrait opposer la description que fait Gradovski, qui lui est un écrivain, membre du Sonderkommando d'Auschwitz, qui est mort d'ailleurs dans l'insurrection du Sonderkommando et dont le manuscrit a été retrouvé enterré près des fours crématoires. Voilà ce que dit Gradovski. On traîne le cadavre sur le sol de ciment, glacé et souillé, et son beau corps d'albâtre poli balaye toute la saleté, toute la fange sur son passage. C'est extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que le cadavre devient, en fait, un corps et il a une valeur lustrale, d'une certaine manière. Oui. Il balaye la fange. C'est-à-dire que la dépouille, dans la description même, la dépouille échappe à la souillure et devient une sorte de statue d'albâtre.
C'est ça. Et qui nous libère de la souillure.
Voilà. C'est pour ça que dans les témoignages, on ne trouve pas, les vrais témoignages, on ne trouve pas les détails horribles parce que il y a en même temps une commémoration et un hommage rendu aux défunts.
Parce que François Rastier, on en revient à ce que vous disiez au début, on témoigne pour les disparus, au nom des disparus, au nom de ceux qui ont été engloutis.
Oui, alors ça, c'est un point capital que vous évoquez. C'est que le témoignage s'adresse aux vivants, mais se destine aux morts. C'est-à-dire que souvent, le témoin est resté là-bas, en partie, si on peut dire. Il le dit, d'ailleurs.
Mais François Rassier, est-ce que c'est une véritable opposition? Est-ce que dans le fond, les morts et les vivants, surtout s'agissant de crimes contre l'humanité, est-ce qu'ils ne forment pas un tout qui excède la réalité contemporaine, la réalité présente, mais un tout qui fait qu'il n'y a pas d'humanité qui ne soit pas endettée envers les morts? Pour reprendre ce que disait Arnaud Esquerret à ce micro il y a quelques semaines, c'est véritablement une communauté morte vivante qui nous constitue.
Oui, alors, ce qui est inouï justement dans la qualification de crime contre l'humanité, c'est qu'on reconstitue l'humanité que précisément le crime avait pour fonction de
défaire. C'est le propre du procès, c'est une contrepassation d'un acte qui s'est mal terminé et qu'on va essayer de rejouer positivement.
Et la suite, c'est la formation de la Cour pénale internationale. Absolument. Qui est critiqué de toutes parts, notamment par les tyrans. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fini mon livre sur les vies par une mention. Elle venait d'entrer en fonction.
Un témoignage pour la justice, une déposition, en même temps une certaine esthétique, une élaboration esthétique, une commémoration, avez-vous dit, vis-à-vis des morts. Et puis une dernière dimension du témoignage sur laquelle vous insistez, qui est la dimension conjuratoire. On témoigne pour conjurer le retour de tels événements, François Rassier.
Oui, alors si on regarde l'histoire des témoignages, il y a une première vague à la fin des années 40, début des années 50, mais ensuite, notamment la dernière grande vague a été au début des années 90, parce que le négationnisme a connu un essor.
C'est ça. Et il faut témoigner parce que le péril revient de nouveau.
Voilà. Et voici un mois, par exemple, Renia Spiegel, qui est l'Anne Frank polonaise, qui est morte en déportation, sa sœur a publié son journal.
C'est ça.
Et voilà ce qu'elle déclare. Cette petite sœur, Ariana, a 88 ans, et voilà ce qu'elle déclare à la presse. « Nationalisme, populisme, antisémitisme, tous ces ismes reviennent à nouveau, et nous ne voulons pas que la mort de millions de personnes se répète. Savez-vous que certaines personnes ne l'ont jamais cru? J'étais là, je peux dire que c'est arrivé. » La même chose en 92, quand Ruth Kluger a un accident de vélo et à l'hôpital se met à écrire ses mémoires pour conjurer justement le retour
et l'oubli.
Et c'est constant, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire qui se répète et qui se répète sous nos yeux, c'est-à-dire que d'autres exterminations, celles des Rohingyas par exemple, sont en cours sous nos yeux et documentées autrement par d'autres personnes avec d'autres moyens, mais cet ébranlement est en train de s'étendre sur l'ensemble de la littérature mondiale, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs qui ne sont pas des survivants ont intériorisé le style, ou du moins ont réfléchi sur la question de la mission éthique et esthétique de la littérature.
Tuve kumuhanda nihesha gaciro ubu buzima twaciyemo tuve kumuhanda nihesha gaciro ubu buzima a b c papi a I am moving b b c a ubu buzima a to ubu buzima Kuchiyema, wihesha gaciro, tuve kumuhanda, ubu buzima. Kuchiyema, tuve kumuhanda, wihesha gaciro, ubu buzima. Kuchiyema, bive ku mihanda bihesha agaciro ubuzima ubuzima kwaciyemo bihesha agaciro bive ku muhanda.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec François Rastier, qui a choisi de nous faire entendre ce morceau de musique intitulé Abattoir et qui était du groupe rwandais The Child from the Street. François Rastier, le problème que pose le témoignage et que vous soulevez dans votre livre et ce sur quoi vous terminiez juste avant cette pause musicale, c'est finalement le lien entre l'esthétique et l'éthique. Un lien qui a été délié en Occident et qui fait partie de notre modernité, mais que réintroduit par nécessité le témoignage.
Oui, alors ça vient pour beaucoup, ce découplage entre esthétique et éthique, voire cette antinomie vient pour beaucoup de traditions suromistes, d'ascendance nietzschéenne. Et donc... puisqu'on vit dans l'intense, le mal, c'est ce qu'il y a de plus décoratif. Et c'est l'abjection qui va se vendre le mieux. C'est pour ça que Little accumule les détails sordides, d'ailleurs purement inventés. Son héros, Maximilian Hao, est un industriel qui fait dans la dentelle comme par hasard, mais il est aussi SS, scatophage, incestueux, homosexuel, enfin, voilà.
On en rajoute
indéfiniment, et ce personnage sans aucune consistance, qui connaît tout le monde, Blanchot, Bataille, etc., etc., et qui se promène partout, sur tous les fronts de la guerre, ce personnage est tout à fait l'antithèse du héros, du témoin proprement dit, puisque c'est le bourreau, et le bourreau doit être abject, et on va attendre de ce bourreau la vérité sur l'extermination. Il est sidérant que des collègues aient prétendu que Maximilian Haus, le héros de héros de Little, soit le témoin historique fiable. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la destruction
dans
de la
version.
Notion même
oui.
d'histoire. Alors, c'est-à-dire la supériorité de la fiction sur l'histoire.
Oui, mais ça, c'est quand même très profond, cette détestation. Oui. C'est quelque chose qui est notre problème de contemporain. C'est cette détestation, on pourrait dire, pour la vérité. La question de la vérité est tombée de son piédestal.
Alors, la réconciliation, oui, ça va dans le sens, beaucoup disent, par exemple, que Hayden White a fait un article sur Lévy pour dire, de toute façon, Lévy emploie des structures narratives, donc ce qu'il écrit, c'est du mythe. C'est aussi simple que ça, comme s'il n'y avait pas de récit historique.
Mais François Rastier, est-ce qu'on peut écrire sans figure narrative?
Alors, il y a des récits événementiels et des récits mythiques, mais apparemment, Hayden White ne se soucie pas de cette différence. Alors, la question que vous posiez, celle de l'élaboration esthétique, est une question centrale qui est liée, à mon avis, à la question de la commémoration. Lévy sait très bien qu'on aurait oublié la guerre de Troie, si Homère ne l'avait pas chantée. Et je crois que ça fait partie de la mission d'éducation. Et en même temps, en gommant les singularités, les détails, par une sorte de concision, il s'adresse à l'éventail, si on peut dire universel des destinataires, c'est-à-dire à toute l'humanité. C'est pour ça que ça peut être lu de toute manière. C'est pour ça que ces livres peuvent devenir des classiques, parce qu'ils ont été faits pour ça.
Oui, et d'ailleurs, Primo Levi va être cité, va devenir une référence, par exemple, au Cambodge.
Oui, tout à fait. Et il y a... Alors, l'histoire des littératures, si on peut dire, concentrationnaires, n'a pas vraiment été faite. Par exemple, la riche littérature, elle a eu son influence, bien entendu. La riche littérature des bagnes tsaristes a eu son influence sur la littérature du goulag. Mais les normes étaient 100 fois plus élevées au goulag. Oui. C'est un autre monde. On voyait dans les bagnes aristes, un chat pouvait traverser la rue sans être mangé.
Oui, pour Chalamov, non. Il y a un chapitre fameux auquel vous faites référence, le chat de Chalamov. Chez Chalamov, mais François Rastier, vous parliez de vos collègues. Il y a quand même au moins une de vos collègues qui a écrit un livre extrêmement important à mes yeux sur la séduction du bourreau. Je pense à Charlotte Lacoste. C'est même un livre à contre-courant, délibéré par une jeune doctorante à l'époque qui n'avait pas terminé sa thèse et qui montre bien la, comment dirais-je, le caractère suspect quand même, et qui doit nous interroger sur le succès d'un livre comme celui de Little. Oui. Mais on pourrait ensuite parler de Céline. Bon, là.
Oui, alors c'est une parenthèse dans son travail de thèse.
Mais qui porte sur le témoignage.
J'ai eu l'honneur de diriger d'ailleurs. Bon. Et qui porte sur le témoignage. Et l'histoire, ce qu'elle a fait qui est tout à fait remarquable, à mon avis, c'est qu'elle a reconstitué le genre du témoignage en France et dans le monde français à partir des témoignages de la guerre de 14, qui ont été réfléchis théoriquement par un auteur un peu trop oublié qui s'appelle Jean Norton Crue, et qui a fait une théorie littéraire du témoignage dans les années 30.
Littéraire.
Oui, absolument. Ça, oui. Et il les hiérarchise en fonction de... Il ose les hiérarchiser en fonction de leur qualité et de leur projet. Et bon, on n'aime pas trop ça actuellement. Les jugements de goût ont disparu.
Mais pourquoi, François Rastier, pourquoi est-ce que vous avancez une explication? Vous dites finalement... La fiction, elle permet le principe de plaisir. Le témoignage, il nous rappelle le principe de réalité. Et finalement, nous avons fait collectivement notre choix.
Oui. Ça a un rapport avec ce que vous disiez sur la post-vérité. C'est-à-dire la vraie négation. Ce n'est pas simple, ce n'est pas la négation des faits. C'est la création d'une vérité alternative qui est la vérité romanesque du faux témoignage ou simplement du roman historique.
Oui.
Mais c'est François, pas par hasard si Max Gallo a collaboré. D'abord, il a trouvé que Little c'était très bien, bon d'accord, mais il a collaboré aussi au livre de Martin Gray qui est typiquement un faux témoignage.
C'est ça, mais est-ce que il y aurait un point commun finalement avec la post-vérité et la littérature, c'est qu'à chaque fois, c'est une œuvre de fiction, mais de toute puissance, de la pensée et de la parole. Est-ce qu'on préfère pas, est-ce qu'il n'y a pas un choix en faveur de cette toute puissance qui flatterait l'individualisme contemporain au détriment d'une réalité ingrate, qui est bien sûr celle des crimes, François Rastier?
Alors, je crois que la question de l'irresponsabilité joue beaucoup, parce que dans le domaine de la post-réalité... il ne s'agit même pas de se démentir jour après jour, c'est de n'en tenir aucun compte.
C'est la victoire du baratin. Oui.
Non, mais regardons la différence, par exemple, entre l'histoire du massacre de Katyn, où les autorités staliniennes disaient « c'est pas nous, c'est les nazis », et l'affaire Skripal, où les autorités russes ont donné 26 versions différentes de la même histoire. Donc, ça veut dire il y a un brouillard de guerre et vous ne saurez jamais. Ce qui est tout à fait différent que de nier, comme au bon vieux temps, ce qui était encore une façon de reconnaître les faits et de les croire intelligibles.
Ce brouillard de la guerre, c'est aussi un brouillard conceptuel. C'est aussi la possibilité d'une sorte de coalescence des contraires. Et qui est extrêmement préoccupante parce que mais qui aurait peut-être quelque chose à voir François Rastier avec le numérique, avec cette nouvelle capacité sémiotique que nous avons à travers le numérique.
Alors c'est l'idée aussi que nous sommes dans un monde de flux et que un flux est indistinct. Alors il y a derrière ça l'indistinction catégorielle qui est prônée par la déconstruction.
Le
bien, le mal, tout ça, c'est la même chose. Les bourreaux, les victimes, tout ça, c'est la même chose. Donc, il y a une sorte de... On ne peut rien établir. Et donc, ce flux historique échappe à tout jugement de valeur. Et le roman historique, le faux témoignage, le vrai témoignage, tout ça, c'est chacun comme on voudra, chacun sa vérité, c'est mon choix, comme chez McDonald's, venez comme vous êtes. Bon, mais c'est très répandu. Donc
lisez ce que vous êtes.
Et donc l'idée qu'il y ait des principes éthiques ou esthétiques et qu'ils puissent avoir un rapport entre eux, ça apparaît comme insupportablement normatif.
C'est pourtant la convergence du beau, du juste, du vrai. C'est quand même la convergence des transcendantaux des Grecs.
Oui, alors, la question c'est aussi pourquoi est-ce qu'un texte peut devenir un classique ? Certains de ces textes le sont devenus. Et je crois que je ne prétends pas avoir percé le mystère, mais je crois qu'il mérite réflexion. C'est-à-dire que, au-delà de l'ensemble des dénis, de la post-vérité, etc., ces textes s'imposent.
Les textes, les témoignages.
Oui, ces témoignages s'imposent.
Mais est-ce que vous n'avez pas confiance, et c'est en vous lisant François Rastier, à la fin, vous avez quand même une confiance dans le vrai, une confiance dans le témoignage qui est dans la littérature. Ce dernier chapitre s'appelle « Refonder la littérature mondiale ». C'est donc véritablement une confiance, là pour le coup, positive, optimiste, non seulement dans l'humanité, mais dans la fonction même de la littérature. Est-ce qu'on ne serait pas, en d'autres termes, un moment, un tournant, et est-ce que cette post-vérité n'appelle pas un retour ou un retour en grâce du témoignage ?
La question que vous posez, je la comprends comme celle de la question des lumières d'après la catastrophe. Est-ce qu'on peut conjurer les catastrophes qui sont en train d'arriver ? C'est une question que Lévy pose. Par exemple, dans un poème intitulé « La Bambina di Pompei », la petite fille de Pompéi. Et il y a une valeur d'admonition dans ce genre de texte. C'est un appel à la, il dit, considération, considérate, c'est-à-dire à la prudence, au sens antique. C'est-à-dire regarder le passé, regarder le futur, et tout cela a eu lieu et tout cela peut très bien revenir. Il le dit, et beaucoup le disent, et beaucoup disent je témoigne parce que ça va revenir. Donc comment ces lumières d'après la catastrophe peuvent-elles s'édifier, je pense que c'est une question immédiate et qui devrait s'imposer, alors que on a fait bizarrement des lumières l'origine du totalitarisme par des biais divers.
Là encore une sorte d'inversion. d'inversion caractéristique de cette littérature des faux témoignages. Finalement, ça serait c'est ce à quoi nous sommes condamnés en quelque sorte, c'est à nous refonder à partir de la catastrophe, François Rastier.
Absolument. Et je crois que la réflexion sur le genre même du témoignage et l'expérience des victimes peut y aider.
Et le rôle de la littérature ? Est-ce que vous voyez dans la littérature mondiale, quand vous appelez refonder la littérature mondiale, François Rastier, c'est quand même un programme extrêmement ambitieux, que vous voyez se dessiner ?
Alors, c'est le programme même des Lumières, la notion de quand un auteur des Lumières allemandes traduit « Homme du monde » par Weltmann, c'est-à-dire l'homme mondial, et puis tout le cosmopolitisme des Lumières. Devant la frénésie identitaire qui se répand, les témoins ont quelque chose à dire, c'est-à-dire ils ont, en tant que survivants, ils en ont été victimes et ils parlent au nom de ces victimes, jamais en leur propre nom.
Et ça serait un universalisme qui se construirait loin de la romantisation, on pourrait dire, de la qui a caractérisé la fausse littérature, les faux témoignages.
Oui, les faux témoignages restent un peu à vrai dire, un peu mystérieux. Ils sont d'abord d'une mièvrerie constante. Ils se vendent très bien. Donc, je crois que ce sont simplement des produits de librairie parmi d'autres.
Mais quand même, François Rastier, Céline, pour parler d'un monstre sacré, et qui est quand même le témoin de cette, qui est le témoin de cette difficulté très contemporaine. Comment se fait-il que, comment expliquer l'engouement contemporain pour un auteur comme Céline?
D'abord, on aime bien le sulfureux. Beaucoup voudraient qu'on réédite ces pamphlets dans la Pléiade, ces pamphlets antisémites. On a réédité Rebattet, Les Décombres, immonde roman antisémite qui avait fait un tabac sous Pétain. On a réédité Drieu La Rochelle. Enfin, disons que toute cette littérature haineuse, c'est l'objet du désir, apparemment, ou en tout cas, elle est portée par des intérêts, sans doute, ou du moins de l'intérêt.
Oui, c'est ça, parce que ça fait vendre. Mais est-ce que ça ne traduit pas aussi une question qui est préoccupante, qui est l'anti-humanisme contemporain? C'est-à-dire qu'on sort d'une période dans laquelle l'humanisme.
Oui, l'anti-humanisme fait partie des fondements théoriques de ces exterminations, puisqu'il va dans le sens de la déshumanisation. Et finalement, il légitime définitions purement identitaires. On n'est plus un homme, on est un Allemand, par exemple.
Oui. Enfin, François Rastier, est-ce que notre époque n'est pas caractérisée par une attitude ambivalente à l'égard de la catastrophe? C'est-à-dire que la catastrophe n'est pas du tout absente de son horizon, et par certains côtés, un certain nombre de livres, et même de politiques, pas d'infralittérature, mais une littérature qu'on trouve dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les séries B, et ce place déjà après la catastrophe.
Ah oui, il y a une immense littérature post-apo. On l'appelle la post-apo. C'est tellement banal que post-apocalyptique.
Oui, c'est ça, post-apo.
C'est un genre, oui. Et donc, nous sommes déjà dans l'après, donc on est dans l'irrémédiable. Mm-hmm. Or, précisément, cette littérature favorise, enfin, disons, ce point de vue favorise l'irrémédiable.
Mais ce serait ça finalement, François Rastier, la définition du vrai témoignage. C'est le témoignage qui nous permet, au-delà des faits qu'il rappelle, de lutter contre l'irrémédiable.
Oui, c'est un acte, de ce point de vue-là, c'est un acte de résistance. Un acte de résistance éthique, esthétique et politique.
Merci François Rastier.
Merci Antoine Carap.
Matière à penser, François Rastier, Olivier Dupré, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Justine Wilde, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, nous continuerons cette discussion en compagnie de Marilyn Maezo pour nous intéresser au bruit des réseaux sociaux. À demain!